Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
Plus tard que ce matin, j'avais deux filles extra, qui, des amis et tout. Et voilà, on a créé un moment à trois. Il y a eu une connexion, c'est magique, quoi. On se reverra peut-être jamais. Mais ça, c'est toute la beauté de la vie, quoi. C'est ces petits moments-là qui ne s'expliquent pas et qui se vivent.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les Clés du Gîte. Je suis Laura, toulousaine installée dans le Lot depuis 3 ans et propriétaire du gîte de groupe Le Moulin de Bernard. J'en avais marre de n'avoir personne avec qui parler de mes galères administratives, de passer des jours entiers à faire du ménage et ne croiser personne. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres professionnels comme moi. Équipée de mon micro et d'un casque sur la tête, j'enregistre les témoignages d'hôtes passionnés et passionnant. Mais ce n'est pas tout. Cette année encore, j'interview également des experts qui partagent sans limite leurs connaissances et conseils avec vous. Et parce que jamais 203, cette année ce sont 3 épisodes par mois, avec la découverte d'une marque, d'un prestataire ou d'une initiative. Qui sait, ce sera peut-être votre prochain partenaire. Comme toujours, vous retrouvez les coordonnées de mes invités dans les notes de l'épisode. Enfin, j'ai énormément de plaisir à lire tous vos super messages et avis que vous me laissez sur Apple Podcasts ou sur Instagram. Alors merci à vous de faire grandir le podcast et surtout, n'arrêtez pas! Vous me demandez souvent où je puise toute mon énergie et je dois vous avouer mon secret. C'est tout simplement vous, vos retours, vos partages et votre soutien. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Mathilde.
Salut Laura.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très contente de te recevoir dans le podcast et je suis impatiente de connaître un petit peu plus l'histoire et le parcours de la Grange de Léonie. Pour commencer, est-ce que tu peux bien te présenter, s'il te plaît ?
Oui, ben merci déjà à toi de me recevoir sur le podcast que j'aime beaucoup écouter déjà. Donc, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, moi, je me présente. Je suis Mathilde Selin-Pourcel. J'ai 31 ans et je suis la gérante de la maison d'hôtes La Grange de Léonie depuis avril 2018.
Ok.
Donc, je suis maman de 2 enfants de 7 ans et 5 ans. Et je suis la femme de Christophe, avec qui nous avons créé cette fabuleuse aventure de la Grange de Léonie.
Comment est née cette aventure, justement ?
Ce projet est né de mon envie d'accueillir les gens et aussi de continuer de voyager. Et donc, à ce moment-là, j'étais déjà maman d'une petite fille et j'avais vu que voyager devenait momentanément plus difficile. J'avais aussi le projet d'avoir un autre enfant, enfin on avait le projet d'avoir un autre enfant ensuite, donc voilà, j'avais envie de combiner et le fait de recevoir et le fait de voyager, et la meilleure option c'était d'ouvrir une maison d'hôtes pour continuer de voyager au travers de nos hôtes justement.
Génial, vous étiez déjà installée dans le Berry ou vous avez emménagé là-bas justement pour le projet ?
Non, on est tous les deux natifs du Berry. Donc, c'est naturellement que le projet s'est passé ici et c'est encore plus naturel, je dirais, parce que on avait déjà notre maison à Méry-sur-Cher et Christophe avait installé cette grange il y a quelques années avant, qui était la grange de sa grand-mère, Léonie. C'est une grange qui était à 30 km de chez nous, qu'il a démontée entièrement. Ouais. Et remonter ici sur le terrain, en fait. Donc, nous, on a une assez grande différence d'âge, donc je le précise pour que ce soit assez compréhensible pour tout le monde. Lui, Christophe, avait déjà sa maison ici, avait déjà fait une bonne partie de sa vie. Finalement, il avait remonté la grange de la grand-mère. Donc, c'était un super projet sentimental pour lui, puisque sa grand-mère l'a élevé partiellement, on va dire. Elle a passé beaucoup de temps avec lui pendant sa petite enfance. Et... il a eu un jour l'opportunité, après le décès de sa grand-mère, il allait se promener au village et il a vu une petite pancarte « terrain à vendre » sur le terrain à côté de chez la grand-mère. Il y avait cette grange qu'il avait donc toujours vue quand il était petit. Et cette grange, c'était un séchoir à briques. Et voilà, donc en fait, il y avait une briqueterie au village et il faisait sécher les briques parce que les maisons de Sologne sont typiquement en briques. Donc, c'est assez sympa. Je vous donne en même temps envie de venir découvrir la région. Hein,
pour ceux qui
ne connaissent pas. Mais bref, cette grange, il l'a vue. Il a eu un coup de cœur, enfin, un deuxième coup de cœur, on va dire, en se disant, mais je peux l'acheter et je pourrais la démonter et je pourrais même la remonter chez moi. Ça me ferait une petite dépendance de plus parce qu'il y avait déjà l'écurie avec des chevaux et des ânes. Donc, il s'est dit, super, ça sera... un stockage de plus pour le foin, pour les véhicules, donc c'est top. Et en un quart d'heure, il a signé un chèque sur le coin de la table des gens qui se rappelaient de lui quand il était petit.
Excellent.
Et il a acheté comme ça la grange. Et il l'a tout démonté, remonté quasiment seul, hein, alors qu'il est commercial quand même de formation. Et voilà, motivé par la passion, il a remonté cette grange. Et donc, moi, je l'ai connu quelques années après. Et donc, quand je l'ai connu, j'ai vu cette grange, il m'a raconté l'histoire. Je crois d'ailleurs que j'ai rien compris parce que j'étais clairement pas venue pour parler du patrimoine, en fait. Donc, bon, j'ai pas capté sur le coup, en clair. Et quelques temps après, bon, il m'a montré des photos de la grange en pièces détachées avec toutes les poutres par terre et tout. Et là, j'ai dit, ah ouais, mais t'as remonté ça tout seul, en fait. Et j'ai réalisé en pleurs du truc. Oui. Et en fait, il a remonté cette grange, ça a duré un an, et donc le projet, c'était bien ça, c'était de stocker des choses dessous. Donc moi, quand on a commencé à parler de maison d'hôte, c'est vrai que moi, j'étais tentée parce que, pour les raisons que je t'ai dit, d'avoir envie d'accueillir et aussi envie de voyager... J'avais déjà ce projet. Ensuite, ça a été tout trouvé parce qu'évidemment, il y avait cette superbe grange dans le jardin et j'ai dit, mais ça, on ne peut pas le transformer là, pour faire une maison d'hôte. J'ai osé poser la question. Christophe était beaucoup moins motivé que moi à l'idée de faire une maison d'hôte. Donc bon, sur le coup, il m'a dit non. Et puis rapidement, il a pris son ordinateur, il s'est mis à faire des plans. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, il était en train de faire des plans d'aménagement de la grange pour la transformer en maison d'hôte. Ah d'accord.
Qu'est-ce qui l'a convaincu ? Il y a eu un petit déclic
ou... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais je lui ai dit, tu sais, on pourrait aussi s'exercer. On a une maison assez grande avec une partie chambre d'amis, salle de bain. Mm-hmm. Et on pourrait faire dans le démarrage.
Se faire la main là-dessus d'abord.
Voilà, s'entraîner là-dessus. Et il a dit ok, comme ça on voit si on valide, si on a envie de faire le projet. Donc ça a duré 2 mois et demi puisque j'étais enceinte de notre fils. Et donc on a fait ça peu de temps parce qu'après il a fallu que j'arrête de travailler quand même. Mais ça nous a vraiment plu et il a dit super. Par contre, on fait plus jamais ça dans la maison et plus de petit déj avant 8h du matin. Donc on avait les bonnes bases.
Génial.
Et à partir de là, et ben on a travaillé sur le projet et on a tout mis en place pour arriver où on en est aujourd'hui.
Ça a été un gros chantier, l'aménagement de la grange ?
Alors oui, c'était un gros chantier puisque c'était de la terre battue. Il n'y avait pas d'eau,
D'accord.
il n'y avait pas d'électricité.
Oui,
Bon,
tout
bah
à fait.
voilà, tout à faire. Mais finalement, c'est parfois ce qu'il y a de mieux pour faire exactement ce qu'on a envie ensuite, quoi.
Il a fallu faire un emprunt pour pouvoir financer ses travaux.
Oui, on a emprunté de l'argent, ouais.
OK. En tant que particulier ou vous avez fait un modèle justement professionnel en expliquant la destination de ces travaux?
Alors, non, on a fait un emprunt personnel.
Super. Combien de temps ça a pris tous ces travaux?
Alors, on en a eu pour. Alors, il y a eu deux étapes. Il y a eu une première partie où on a fait la dalle avec donc, tout ce que ça comprend en dessous, évidemment.
Zébac, ouais.
On a posé des portes, des fenêtres, tout ça. On s'est mis hors d'eau, hors d'air.
Super.
Et on s'est mariés. Ça nous a servi de salle de mariage pour 115 personnes.
Superbe.
Voilà, donc c'était chouette. Donc c'était prévu dans le planning des travaux, hein, puisque aussi, pareil, quand on m'a dit mais on se marie où, comment, moi, un château, ça ne me faisait pas rêver. Je trouve ça très beau, mais ça me correspondait pas plus que ça. Donc, et puis, se marier à la maison, je trouve que c'est tellement authentique et voilà, c'était naturel. Donc voilà, projet mariage à la grange. Et donc, 2 jours après le mariage, évidemment, la lune de miel a commencé pour 7 mois de travaux. Donc, vivant et travaillant de la maison, enfin moi, je m'occupais des enfants à cette époque-là et Christophe travaille de la maison, donc on était tout le temps là pour poursuivre. Il y a eu des entreprises, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes. Et voilà, il a fallu 7 mois pour que la grange puisse accueillir ses premiers hôtes ensuite.
Comment vous avez déterminé le nombre de chambres, l'agencement des pièces? Est-ce que vous vous êtes fait accompagner par un maître d'œuvre ou un architecte?
Alors non, on n'a pas eu d'aide de la part d'un maître d'œuvre ou d'un architecte. Et on a fait nos plans. Christophe est assez doué pour ça, donc il a fait les plans de lui-même et on a eu, si on a eu l'intervention très éclairée d'une personne qui travaille pour Gîtes de France. Et pour toutes les personnes là, qui écoutent et qui ont ce projet, c'est toujours bien de les contacter en amont pour savoir ce qui est attendu pour la création de votre hébergement. Et donc, il y a un petit rendez-vous qu'on peut solliciter pour justement se rencontrer et présenter notre projet. Donc, nous, comme on était à l'échelle, à l'étape des travaux et du projet, cette personne est venue et s'est permise de regarder notre plan, lui a tout montré et elle a eu quelques petites modifs très sympas qui nous ont aidés, donc j'avoue que ça c'était chouette. Si elle écoute ce podcast, je remercie Catherine Camelot. Voilà.
Vous avez un moment pensé à faire plutôt gîte que chambre d'hôte, ou c'était vraiment le modèle chambre d'hôte qui était important pour vous?
Alors moi j'ai toujours voulu faire chambre d'hôte puisque je voulais passer du temps avec mes hôtes et que voilà, je voulais que ça m'occupe quotidiennement.
Ok. Au niveau du montage bah de la déclaration, peut-être de la création, l'immatriculation, etc., comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait le choix d'être accompagné par un expert comptable? Est-ce que tu as fait les recherches de ton côté pour savoir quelles étaient bah, les obligations et la marche à suivre?
Alors, on a deux, trois copines comptables qui nous ont gentiment renseignées. Donc, on a fait un numéro de Siret et on s'est lancé tout simplement, quoi.
Tu es sous quel statut juridique?
Alors là, on est en train de changer justement. On est à l'avocate qui est en train de faire la passation du logement meublé non professionnel vers du professionnel.
Et donc en entreprise individuelle?
Oui.
Ok, super. Est-ce que tu as trouvé ça compliqué justement ces démarches, savoir il faut se déclarer à la mairie, savoir exactement ce qu'il fallait faire pour être dans les règles?
Franchement, c'est pas évident de trouver toutes les informations. Et pour être très honnête, là, c'est Christophe qui a géré toute cette partie administrative parce que je suis assez phobique de tout ça. Donc, il n'est pas là pour en parler. Je vais essayer de parler à sa place. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est pas facile.
On imagine, les travaux sont faits. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment tu as imaginé la mise en vente, les plateformes sur lesquelles tu voulais être référencée, ta grille tarifaire?
Alors là, ça a été le grand saut. Il a fallu bah, se mettre sur les sites de réservation. Ça prend un petit peu de temps. On s'est mis sur toutes les agences de tourisme en ligne. Et puis, en tout cas, les plus connues. La grille tarifaire, ben, on a été essayer de regarder, voir ce que faisaient les gens autour de nous pour essayer de se positionner en fonction. Avec du recul, je ne sais pas si c'était la meilleure méthode, mais bon, c'est ce qu'on a fait.
Et pourquoi tu penses que maintenant c'est pas la bonne méthode ?
Parce que je pense que il faut pas chercher à se comparer dans ce métier à aucun moment. Il faut essayer de faire comme quelqu'un d'autre. Et puis le voisin, même s'il fait quelque chose de très bien, son tarif sera toujours le sien et le nôtre, le nôtre.
Oui, les hébergements sont tous uniques et un tarif peut ne pas correspondre à chaque profil puisque y a plein de critères qui rentrent en jeu.
Exactement.
Est-ce que le projet impliquait que tu quittes un emploi ou que tu passes à temps plein sur l'activité ou c'était pas du tout l'idée ?
Alors moi, comme je te disais, j'ai élevé mes enfants, j'étais au chômage en fait. Donc moi, ça a été assez facile de basculer, puisque de toute façon, il fallait que je retravaille.
D'accord. Et Christophe, lui, a gardé son activité ?
Oui, tout à fait. Christophe, il est en soutien sur l'activité quand il ne travaille pas. Il peut m'aider, tout ça. Il épaule, il est dans toutes les décisions, évidemment, les travaux, l'entretien et toutes les petites rénovations qu'implique une maison d'hôte. Mais lui, il a son travail à temps plein.
Est-ce que vous êtes ouvert toute l'année ou tu gardes des périodes de fermeture pour justement du bricolage un peu plus conséquent ou juste pour des vacances en famille ?
Alors là, c'est notre quatrième année et en fait, on ferme vraiment sur la basse saison. On ne le prévoit pas à l'avance, c'est-à-dire que, enfin, si, ça se prévoit à l'avance, mais pas tellement, c'est pas figé. Et on a tendance à, enfin, on a pris les choses en se disant, on ouvre, il faut qu'on reste ouvert le plus possible. Et là, on commence à ajuster, évidemment, parce que les années passent, c'est quand même fatigant. Donc, il va falloir qu'on pose un petit peu plus de vacances et puis aussi des périodes dédiées aux petites réparations, un petit coup de peinture. Donc pour l'instant, on n'avait pas tellement le besoin et là, il va falloir qu'on ajuste un petit peu, effectivement.
En 2021, vous avez fait l'aménagement de l'écurie. Comment s'est inscrit ce développement de l'activité ? Est-ce que vous aviez dès le départ pensé que ça pouvait être aménageable et que vous pouviez agrandir votre hébergement ou c'est un peu venu plus spontanément une fois que vous aviez bien installé l'activité sur la grange ?
Alors, il est vrai que dès qu'on a ouvert la grange, on avait pensé tout de suite à l'écurie.
Ah.
C'est juste à côté. Donc, en fait, c'était logique. On s'est dit, bon, c'est bien, on a fini les travaux, qu'est-ce qu'on fait ?
Et oui.
Tout de suite, ça, c'est inévitable. Donc, il se trouve que l'écurie était encore occupée par un de nos chevaux à ce moment-là et les ânes qui étaient aussi là.
Ouais.
Donc, c'était pas pour tout de suite. En plus, financièrement, comme il y avait un crédit, qu'il y a d'ailleurs toujours un crédit, c'était logique qu'on n'y pense pas non plus pour tout de suite, mais c'était dans les tuyaux. Et puis, est arrivé le coronavirus, le confinement, le chômage partiel, et on n'avait pas oublié cette petite idée. Et Christophe a repris ses plans, son ordinateur, et a refait des plans pour l'écurie. Et entre-temps, oui, j'ai oublié qu'on avait perdu un cheval, malheureusement. Donc, ça a été un peu tous ces éléments qui ont fait que, il fallait y aller. Donc,
ça a accéléré un petit peu le.
Tout s'est accéléré, c'était pas prévu pour tout de suite, mais c'était l'opportunité pour une fois de faire les travaux nous-mêmes au maximum, en tout cas Christophe, hein, parce que moi, je touche rien, même pas un pinceau. Mais soyons honnêtes, hein, il faut rendre à César.
T'as pas été piquée par l'attrait du bricolage?
Ah non, j'ai juste été piquée par la déco et l'envie de toujours tout améliorer et perfectionner. Mais en tout cas, non, je laisse ça aux professionnels.
Et Christophe, il prend plaisir à faire tout ça?
Il adore.
Je pense que oui, c'est un manuel, j'imagine.
Ouais, il adore. Il s'est fait lui-même 90% des travaux de l'écurie. Donc. Pendant une grosse période de chômage partiel liée à son activité principale à lui. Et du coup, il s'est bien épanoui là-dedans. Si je l'écoute, il faut remonter une grange dans le terrain.
Ah oui.
Voilà, ça n'aura pas lieu parce que on va rester à taille humaine et que je trouve que sur place...
Faut pas surcharger.
On est déjà bien occupé, hein, voilà. Il faut que les autres restent en petit comité. C'est aussi le charme de ce genre de lieu. Ouais. Donc, Mais il faut le canaliser.
En fait, une fois qu'il finit un chantier, il se dit à quand le prochain, quoi.
Exactement. Puis alors moi aussi, c'est ça le pire, hein, c'est que moi j'ai des idées de déco pour 10 maisons à l'avance. Donc oui. Voilà.
Bon, on garde en tête, je pense que si on se reparle dans 3 ans, il y aura peut-être des nouveautés quand même.
Oui, on verra, mais c'est possible.
Est-ce que le fait que, ces travaux de l'écurie aient été un peu chamboulés, mais surtout accélérés, est-ce que finalement tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que avec un peu de recul maintenant, tu te dis, mince, on n'aurait peut-être pas dû s'emballer? Ou vous êtes très content d'avoir saisi cette opportunité?
Nous, on est super contents puisque c'est tombé à pic avec des besoins différents, l'envie de s'évader plus de tous les gens qui vivent sur Terre en ce moment à coronavirus. Et puis ça va chercher une autre clientèle aussi parce que un gîte on est tout seul, on ne prend pas de risque sanitaire, on n'a pas les mêmes contraintes sanitaires, donc ouais, c'était cool et ça a démarré, c'était la folie en fait.
Ça a démarré de suite.
De suite, dès l'ouverture, on a encore ouvert en avril, mais c'est 3 ans après la grange et ça a été la folie évidemment dans le contexte.
Excellent. Après, c'est parce que tu es aussi très présente sur le compte Instagram notamment, et je pense que c'est un tel plaisir de vous suivre et on a un peu l'impression de participer aux travaux sans beaucoup d'efforts, mais c'est vraiment une super façon de montrer les coulisses et d'inclure aussi les abonnés et de potentiels clients, parce que une fois que vous avez fini, on a hâte d'essayer, quoi, de tester.
C'est gentil, c'est vrai que c'est ce qu'on nous a dit, on a eu pas mal d'autres qui nous ont dit, ah mais moi j'ai vu quand tu filmais Christophe faire les travaux et tout, ça donnait vraiment envie de venir voir et ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais en tout cas ça nous a toujours motivés et même au quotidien, les réseaux c'est un bon moteur pour moi humainement parlant. Voilà, les interactions sociales, parce qu'on n'a pas de collègues, donc on voit des autres en vrai, mais aussi tous les petits mots adorables que je reçois, ça me booste.
Oui, complètement. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton quotidien? Est-ce qu'il y a une journée type ou en tout cas des tâches qui reviennent de façon récurrente?
La journée type, c'est le petit-déj et tout ce qu'il y a avant le petit-déj, ce qu'on ne voit pas avant, mais toute la préparation, oui. Que ce soit d'aller chercher le pain, préparer la pâte à gaufres, tout ça. Et puis, après, il y a le temps du petit-déj où j'en profite pour discuter avec les autres. Et puis après, il y a ce moment fatidique où ils partent et il faut se motiver pour faire le ménage. Et ça, c'est la plus grosse charge.
Est-ce que tu as de l'aide?
Alors, l'aide, c'est vraiment au coup par coup quand il y a des grosses périodes, mais peut-être qu'il va falloir se faire aider plus dans les mois à venir avec la grosse saison, la grange et le gîte, on réfléchit. Mais pour l'instant, c'est souvent moi et puis Christophe quand il ne travaille pas le week-end pour espérer passer un peu de temps en famille. Il vient m'aider.
Et oui. Tu ne fais pas table d'hôte. J'ai vu en revanche que tu pouvais proposer des planches, charcutes et tout ça et des conserves. Comment tu as dû le déclarer, ces petites ventes complémentaires? Est-ce que c'est compris, on va dire, avec ton statut en tant que chambre d'hôte, ou c'est quelque chose qu'il faut... Est-ce qu'il y a des étapes ou des déclarations à faire en complément?
Alors, il faut déclarer tout ça puisque c'est une activité commerciale, donc il faut le déclarer. Là, c'est le comptable qui conseille, hein, qui nous dit comment rédiger les choses. Mais oui, on ne fait pas ça comme ça parce que en fait, c'est pas de l'activité hébergement, donc oui, il faut le déclarer séparément.
Et oui. Tu as fait également une nouvelle déclaration en tant que gîte, du coup, pour l'écurie, parce que tu ne peux pas la déclarer comme la maison d'hôte, c'est pas les mêmes, je pense, la déclaration surtout à la mairie, en fait.
Oui, il a fallu exactement refaire une déclaration à la mairie pour ce nouvel hébergement, et on est encore passé avec Gîte de France qui nous a super bien conseillé pour ça.
Parce que justement, des fois, tu privatises, ou du moins tu offres la possibilité de privatiser la grange. J'imagine que tu le faisais déjà avant même que vous développiez l'écurie. Donc peut-être que tu avais déjà fait cette déclaration auprès de la mairie dans le cadre des privatisations.
Alors, je l'ai appris après ça.
D'accord.
J'ai eu quelques réservations, très honnêtement, qui n'étaient pas déclarées en gif parce que je ne savais pas. Oui, voilà, on coupera au montage ou alors on le laisse pour ceux qui savent. Qui savent ça. Mais voilà, je ne savais pas, je l'ai découvert après. Et oui, donc maintenant on est dans les clous,
sérieux,
mais c'est vrai que c'est une autre activité.
Voilà, ouais, tout à fait, ça ne comprend pas les mêmes prestations et ça implique de faire une déclaration complémentaire. Est-ce que c'est difficile de conjuguer ton activité avec la vie de famille? Tu en as un petit peu parlé en disant effectivement, bah, quand Christophe a du temps libre, il vient t'aider, etc. Mais vos week-ends, bah, vous avez de la clientèle. Et vous avez deux enfants. Comment on jongle avec tout ça?
Alors, vraiment, je me demande comment j'ai fait déjà à l'ouverture de la grange en étant toute seule à gérer ça. C'est vrai que c'est... quand on a ouvert au début, notre fils était petit, il avait 18 mois. On jonglait avec que quelques jours de crèche puisque justement, on ne savait pas si la grange allait se lancer rapidement. Donc, on ne voulait pas avoir un contrat de crèche trop important pour au final ne pas faire beaucoup.
Bien sûr.
Donc, il a fallu s'adapter au jour le jour avec tout ça. Ensuite, ben oui, quand on passe de mère au foyer à gérante de chambre d'hôte et que le succès se lance plutôt bien, oui, il faut réajuster. Pour moi, ça a été des conflits assez importants intérieurement de gérer cette place de mère et cette place de working girl, comme c'est un terme à la mode. Mais, mais bon, comme toute femme le traverse, hein, c'est vrai que mais pour moi, ça a été assez difficile et ça l'est encore toujours à certaines périodes. Parce que je sais que je suis tellement dédiée à mes autres que par moments, c'est pas évident de raccrocher à la vie de famille, quoi. Et cette année, pour la première fois, on s'est fait aider. Enfin, on avait d'habitude, pour la haute saison, en tout cas l'été pur, on mettait nos enfants en centre de loisirs. Et c'est là que c'était très difficile parce que quand moi, j'allais les récupérer, ma journée avec les autres commençait, ou plutôt recommençait avec des nouvelles arrivées. Donc, c'est là où on est pris beaucoup plus, à 100% en tous les cas. Et là, j'ai dit, bon, cet été, on ne peut pas refaire ça encore. C'est compliqué. Les enfants ne comprennent pas pourquoi on n'a pas passé la journée avec eux et qu'encore, on les fait attendre le soir pour qu'on soit disponible, enfin, en tout cas, pour que je sois disponible. Et là, il fallait une autre solution. Donc, cette année, on a pris une fille au père. Mmh. Et elle est arrivée, je crois que c'est de mai à septembre. De juin à septembre, pardon, pour qu'elle commence à s'acclimater avec les enfants avant l'arrêt de l'école et tout. Et ça a été une belle bouffée d'oxygène pour moi. En tout cas, ça m'a déchargée énormément et je me suis sentie beaucoup moins coupable de laisser les enfants avec elle. Et en plus, comme ils étaient sur place, quand j'avais plus de temps en journée, quelle que soit l'heure, quand j'arrivais à me dégager, je pouvais passer un moment avec eux et ça, c'était magique. Donc, je m'étais organisée sur le milieu de journée où je fais mon break du déjeuner et je suis avec eux et je passe, j'essaye de passer quand c'est possible 2 heures tranquille avec eux, quoi. Et ça a beaucoup changé le quotidien et cette année, on va refaire pareil. Je pense que on va trouver une nouvelle fille au père et on la fera venir idéalement même au mois de mai. Mmh. Pour que notre saison s'allège puisque même dès le mois d'avril, ça commence à être plus intense.
Est-ce que tu passes par une compagnie pour faire une annonce, faire le recrutement
Alors nous, on est passé avec Upper World. C'était ce qu'il y avait de plus simple au niveau administratif.
D'accord. Et est-ce que financièrement, tu trouves que c'est aussi un bon deal ou ça peut être un peu excessif Quel est ton retour sur l'aspect économique de cette option?
Alors... C'est une bonne question. C'est ce qu'on s'est posé, évidemment, avant de commencer l'aventure. Et je me suis renseignée et je me suis rendu compte que ça n'allait pas coûter beaucoup plus cher que de mettre mes deux enfants au centre de loisirs 5 jours par semaine. Mmh. Et par contre, en termes de qualité de vie, on allait tellement y gagner. Donc oui, ça nous coûtait un petit peu plus cher. Mais avec l'option que vos enfants apprennent une langue en plus. Enfin, nous, elle parlait anglais. Donc déjà, il y a une première initiation avec ça. Et donc, ça vaut largement le coup, je trouve.
Et elle aura appris à nager aussi.
Exactement, bah, tu suis super bien, bravo.
Mais oui.
J'adore, ouais, ben voilà, elle est fille de championne olympique, donc de natation, et forcément, elle a bien nagé, quoi. Et elle est maître nageur, donc elle a appris à Inès à... Alors, Inès savait déjà nager, mais elle lui a appris plein d'autres choses, et puis notre fils aussi, donc c'est super.
Non, mais je trouve ça très intéressant, et en plus, je me l'étais noté effectivement pour te poser la question sur un peu ton débrief sur cette venue d'une fille au père, parce que y a de nombreux auditeurs qui ont déjà des enfants, souvent en bas âge et autres, et c'est vrai que c'est très compliqué de trouver un équilibre entre l'activité et puis sa vie perso, ne pas culpabiliser de ne pas être disponible pour ses enfants et en même temps essayer de trouver ces moments dans lesquels on peut passer un temps avec eux. Donc je trouvais en tout cas que c'était intéressant et d'avoir ton retour sur ce fonctionnement-là.
Ouais, je voudrais rajouter deux petites choses. C'est vrai que on sous-estime souvent en fait l'implication que va demander d'avoir une maison d'hôte ou un gîte même. Et en fait, souvent les gens, je les entends me dire, mais c'est mon rêve, je serai disponible pour mes enfants et tout, mais non, figurez-vous, quand vos enfants rentrent à l'école et le matin, quand vous devez les emmener à l'école, c'est pile les pics où vous devez être vraiment à 100% avec vos hôtes. Donc, petit-déj et accueil du soir et planche charcuterie et apéro et que sais-je encore, tout ça, c'est des moments charnières avec vos hôtes et c'est des moments charnières avec vos enfants. Donc, voilà, la facilité fille au père, c'était chouette. Et petite anecdote, c'est que mes enfants, avant, je ne pouvais pas les emmener à la piscine l'été. Puisque j'étais toujours soit en service auprès des hôtes, soit en disant mais non, je ne peux pas me mettre en maillot de bain parce qu'il reste deux hôtes à accueillir et qu'une fois qu'on est dans la piscine, on ne peut plus sortir. Donc la fille au père, pour ça, c'est le top. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont une piscine et des enfants et une maison d'hôtes, franchement, ça change la vie.
Non, mais c'est excellent, c'est une super, je sais pas comment on dit, alternative, non, c'est pas le bon mot, mais option.
Ouais, ça va. Ouais.
Alors, il y a un très grand terrain, vous avez la piscine, mais vous avez aussi deux jacuzzis, donc un qui est pour la clientèle de la chambre d'hôte et puis un qui est attenant à l'écurie. Est-ce que ça demande beaucoup de temps de travail aussi? Est-ce que vous changez l'eau systématiquement entre les locations? Est-ce que c'est une charge de travail conséquente?
Oui, alors ça aussi, c'est du travail. C'est Christophe qui s'en charge. Il va falloir qu'il me forme à tout ça parce que je ne sais pas du tout gérer les jacuzzi. Donc, en fait, oui, il faut changer l'eau de temps en temps, mais pas à chaque fois, heureusement. Parce que ce serait assez énergivore. Enfin, réchauffer l'eau à chaque fois, tous les litres d'eau, c'est pas rien. Mais tous les jours, en tout cas, il y a une désinfection après chaque passage d'hôte, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, minimum. Dès qu'on a une réservation, de toute façon, on sait que le lendemain, on va checker le jacuzzi, quoi, et qu'il va falloir mettre des produits. Et oui, ça prend du temps. Bon, après, il n'y a pas l'air de s'en plaindre. Et puis ça vaut largement le coup aussi, puisque on va pas se mentir, les jacuzzi, c'est quand même un vrai plus pour les autres.
Oui, toi, tu conseilles vraiment de, si on a les moyens, autant logistiques que financières que d'espace, tu trouves que c'est un équipement un peu must-have pour une chambre d'hôte ou un gîte?
Après, en fait, je sais pas. Pour nous, en tout cas, c'est chouette. Tout dépend aussi de vos convictions écologiques, tout ça,
oui.
Parce que c'est vrai que c'est quand même pas anodin d'avoir deux jacuzzi, et c'est vrai que des fois j'y pense et je me dis quand même, mais en tout cas nous ça match avec notre clientèle et c'est ce que les gens viennent chercher, et après ce sera la même chose si quelqu'un n'a pas de jacuzzi, c'est peut-être aussi ce que les autres iront chercher, un lieu où on n'est pas dans le superflu et dans les choses qui consomment trop, donc après... Je pense qu'il n'y a pas de must ou autre. Hein. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est les bains nordiques. Ça me plaît bien, de chauffer au bois. Et, enfin, voilà, je pense que tout est cool. Mais Bon, nous, on trouve que c'est quelque chose qui plaît vraiment et nos hôtes nous font des super retours. Encore les filles qui sont parties ce matin m'ont dit, mais le jacuzzi, c'était le top, quoi. Bon,
Ouais.
voilà.
Et contrairement à la piscine, ben c'est toute l'année et ça, c'est aussi un sacré avantage.
Exactement, c'est ça le plus.
Au niveau des équipements, alors moi je pense que tu as une super astuce aussi par rapport à l'entretien du jardin et du. Je pense qu'on peut dire parc, hein, parce que
Oui.
vu tout ce que vous avez, c'est les tondeuses automatiques, je ne sais pas comment on dit, électriques automatiques?
Ouais,
Non.
c'est les robots tondeuses, exactement.
Voilà, robot tondeuse. Donc je crois que tu en as deux, en plus ils ont des petits prénoms.
Oui, alors c'est Jean-Mi. Et puis le deuxième, c'est pas officiel en fait. On
Ah!
réfléchit. Ouais, c'est ça.
Bah, et on va inviter les auditeurs et auditrices à te faire des petites su suggestions éventuellement,
C'est ça,
si
c'est
tu veux.
ça. Avec plaisir. Mais c'est souvent qu'en plus je dis aux autres, mais le deuxième, je ne sais pas comment l'appeler, alors on rigole parce qu'ils me sortent des propositions, c'est toujours sympa.
Et alors ça, effectivement, c'est un vrai plus aussi. Tu sens que c'est un confort au quotidien?
Non, mais carrément, en fait,
Ouais.
c'est Christophe qui tond, donc on a un super robot tondeuse, pas robot tondeuse, pardon, on a un super tracteur tondeuse. Il y a 3 hectares au total. Bon, il y a 1 hectare de pré. Il y a des parties qui ne se tondent pas non plus. Mais je crois que chaque tonte, il passait au moins 3 heures à chaque fois avec un appareil qui est quand même large, qui faisait une tonte de 1,30 m à chaque fois, à chaque passage. Donc, bon, c'était prenant. Et puis, ben, ça pousse vite, évidemment. En haute saison, c'est quand même compliqué puisqu'on a déjà beaucoup de boulot. Et il y avait cette contrainte aussi de... Je ne tombe pas quand les autres sont à la piscine. Quand on a des gens en séjour plusieurs jours et que dès 10 h du mat, ils sont calés sur le transat jusqu'à 18 h, impossible de tondre. Alors voilà, il fallait jongler, quoi. Puis quand il pleut, c'est pareil, on n'a pas envie de tondre. Enfin, bon, il y avait beaucoup de contraintes. Et moi, j'avais vu ça et je disais à Christophe, mais franchement, prends rendez-vous avec quelqu'un qui vient nous faire la démonstration parce que là, franchement, c'est un investissement qui, je pense, peut vraiment nous soulager, quoi, te soulager. Il était hyper réfractaire au départ, mais quand même, quand il a dû aller faire entretenir la lame de tondeuse, il a dû en parler au commercial de la boutique qui lui a dit, mais si, c'est super, vous allez voir. Et en effet, on a nos deux robots, il y en a un qui fait la partie de chez nous et l'autre la partie de la grange. Mais quel bonheur, c'est toujours net, il n'y a même pas un jour où on se dit au secours, des fois. Entre deux, en pleine saison, il y avait des jours où on se disait, mais c'est haut, au secours, c'est pas terrible pour les autres. Mais là, il n'y a plus de soucis, quoi. Bon, après, si vous n'avez pas de maison d'hôte, n'achetez pas ça, puisque si vous n'êtes pas sur place, quand le robot Jean-Mi s'est coincé entre deux chaînes et trois glands et je ne sais pas quoi, il faut aller le remettre en route, hein. Mais en tout cas, pour nous, c'est top.
Un vrai confort. Est-ce
Ouais.
que pour ton ménage, justement, tu as des équipements aussi que tu recommanderais qui t'ont facilité un petit peu bah, les tâches ménagères?
Pour le ménage, nous, on a le bon vieux Dyson hein, pour éviter de se brancher
Ouais.
partout sans fil. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose à recommander, puisqu'au bout d'un moment, il n'y a plus de batterie. Donc, il faut aller mettre en charge et puis aller laver une autre salle de bain. Enfin, voilà. Donc, je n'ai pas encore investi trop dans des produits ménagers. J'ai parlé avec d'autres propriétaires qui me parlent de super choses à la vapeur. Donc, je pense que ça, c'est ce qui me tente pour la suite, pour éviter d'utiliser. Trop de produits ménagers pour essayer de faire ça un petit peu plus naturel. Mais j'écouterai le podcast pour prendre des idées.
Oui, non, mais c'est justement un peu ce à quoi je pensais, puisqu'on en voit un peu de plus en plus. Je pense notamment à ma voisine Nathalie du Perchoir du Quercy qui a un Vapodil, je crois, quelque chose, je
Oui,
pense que c'est la
c'est ça,
marque,
oui.
effectivement, qui est assez multitâche à la fois sur du plan de travail que de la vitrerie ou des carreaux de la salle de bain, des tartrés. Elle peut aussi faire, je crois l'avoir vu nettoyer les matelas. Là aussi, les tapis. Donc effectivement, moi aussi, je suis très curieuse de savoir si, parce que je pense que ça reste un investissement, mais s'il est vraiment intéressant et si c'est complet par rapport à tout ce qu'on peut faire avec un seul instrument.
J'ai eu les mêmes retours de la part de Christelle de l'étiquette 74
Oui.
et c'est super. Enfin, quand elle est venue, ils ont séjourné ici, puis elle me parlait de ça. On s'est changé nos petites astuces et vraiment, elle m'a donné vraiment envie de l'acheter. Donc bon, je pense qu'il va falloir y passer.
Ok, bon bah tu nous feras un petit débrief alors, ouais. On compte sur toi, une démo et puis...
Avec plaisir, une démo un en story évidemment, en bonne et due forme.
Voilà. Au niveau de la vente, comment tu as fait le choix des plateformes sur lesquelles tu souhaites être référencée ? Est-ce que tu as évolué pendant ces 4 ans d'activité ? Est-ce que tu as changé un petit peu ta cible, ta façon de commercialiser la grange ?
Je ne pense pas avoir fait beaucoup de changements. Il y a juste quelque chose que j'ai arrêté. Donc, j'ai été un moment partenaire Smartbox.
D'accord.
J'avais envie d'essayer. Ça ne m'a pas amené énormément de monde. Et à chaque fois, il y avait une obligation de faire un repas. Et bon, ce n'était pas hyper dans l'ADN de ce qu'on aime faire. Donc, on a arrêté. Pareil, on était sur Airbnb, mais Airbnb, c'est pas notre cible. Je sais pas pourquoi, ça n'a jamais marché. Donc, il faudrait que je change un peu ma façon de commercialiser, peut-être sur ce site, cette plateforme-là. Je vais voir. C'est vrai qu'il va falloir que je retravaille un petit peu ma façon de commercialiser. Je pense notamment à l'écurie, puisque pour l'instant, elle est présentée comme un hébergement parmi les autres, c'est-à-dire que si tu vas sur Booking, tu vas trouver la grange de Léonie et tu vas voir les trois chambres et tu vas voir l'écurie. Et justement, je me demande s'il ne va pas falloir que je sépare tout ça pour proposer l'écurie séparément et toucher directement une cible écurie, puisque là, pour l'instant, je pense que l'écurie, elle a bien marché avec le lancement, la communauté qui suit, et puis comme on disait, le contexte sanitaire. Mais pour qu'on la trouve en tant que telle, il va falloir, je pense, que je la sépare.
Oui, c'est à réfléchir effectivement de créer un parcours vraiment de vente propre à l'entité écurie et la dissocier du reste des hébergements. Comment tu décrirais ta clientèle ?
Adorable. Adorable, ils sont tous gentils, franchement c'est magique, donc c'est la première chose qui me vient, mais non, elle est très hétéroclite, ma clientèle, notre clientèle.
Plutôt famille, des Français, plutôt local.
J'ai tout en fait, en plus avec le Covid je pense que ça fait bouger les lignes, mais j'ai autant des familles que des couples. Donc c'est ça qui est fort, c'est que autant on se revendique kids friendly, il n'y a pas de souci, et autant j'ai pas mal de couples qui viennent parce que je pense qu'ils aiment le cadre, et puis le jacuzzi est un petit attrait sympathique. Et on a aussi des professionnels, on a beaucoup de Français, beaucoup de Belges, de Hollandais évidemment, voilà, des gens de partout.
Est-ce que tu as des projets pour l'avenir ? On en a un tout petit peu parlé au tout début, mais est-ce qu'il y a des choses assez peut-être déjà définies ou qui sont en cours de développement ?
Alors, on a sans cesse, on va dire qu'on a 7 idées par semaine de toute façon, donc je ne vais rien dire actuellement, mais on a des idées évidemment. Et comme on a ouvert en avril là, l'écurie, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y aura rien tout de suite. Mais c'est sûr que les envies, franchement, nous, si on pouvait juste concevoir des maisons d'hôtes, les créer, les mettre en route et puis partir quand le bébé est prêt et sevré, oui. On kifferait, quoi.
Ah mais c'est génial, et pourquoi pas ? Moi, je sais que c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi et ce que je ressens même actuellement avec le Moulin Bernard. Voilà, j'ai l'impression que ça a été très dur, mais là, ça peut rouler. Du coup, ça m'intéresse un peu moins.
C'est fou, hein ? C'est cette envie de chercher l'insécurité, oui. Tout le temps.
Le challenge.
Nouveau, le challenge, la passion, ouais.
Complètement.
Tout à fait.
Qu'est-ce que, justement, en parlant de challenge et de difficulté, à ton avis, quelle a été la difficulté la plus... la plus importante à laquelle vous avez été confrontée?
Franchement, j'avais... À part... le plus difficile pour moi, ça a été de gérer, comme on disait tout à l'heure, la vie de famille avec la grange. Mais sinon, on n'a pas été confronté à de grosses difficultés. Hein. Ça roule quand même.
Génial. Et ton meilleur souvenir jusqu'à aujourd'hui?
Moi, le ressenti... il revient souvent à chaque fois que je vois des gens alors, qui font connaissance à la grange. Là, si je dois donner un exemple, c'est par exemple trois tables d'hôtes qui, enfin, ils sont installés à mes petites tables là, dans la pièce commune. Et puis au final, au départ, personne se parle. Donc moi, j'arrive, je commence à les servir, à faire ce qu'il faut. Et puis je brise la glace. Et puis petit à petit, tout le monde commence à se parler. Et puis je rentre chez moi, je vais dîner avec ma famille. Et puis quand je repasse plus tard pour mettre la table du petit-déj, ils sont tous en train de boire un coup ensemble, quoi. Donc, et puis au final, j'arrive plus à partir. J'ai couché mes enfants et puis je prends le thé avec eux. Et bon, c'est plus compliqué en ce moment avec le Covid. On s'est masqué, mais ouais, carrément, ça, c'est la joie de ce métier.
Ça crée des connexions, des belles rencontres.
Pas plus tard que ce matin, j'avais deux filles extra, qui sont des amies et tout. Et voilà, on a créé un moment à trois. Il y a eu une connexion, c'est magique, quoi. On se reverra peut-être jamais. Mais ça, c'est toute la beauté de la vie, quoi. C'est ces petits moments-là qui ne s'expliquent pas et qui se vivent.
Magnifique. Pour les porteurs de projets qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous donner trois conseils ?
Alors là, cette question. franchement, je ne sais pas ce qu'on peut conseiller.
Bon, ça peut ne pas être trois, ou ça, juste qu'est-ce qui te vient à l'idée ? Qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme astuce ou les rassurer ?
Alors moi, je voudrais juste leur dire qu'il ne faut pas penser que c'est tout rose, que c'est facile, qu'il n'y aura plus de quotidien, d'effet magique il y a l'effet magique pendant toute la période de gestation du projet et puis une fois que le bébé est là, que vous êtes rodé, que vous dormez plus la nuit et que vous avez plus de vie sociale à part celle du bébé, donc en l'occurrence celle de la grange, il y a un moment où vous pouvez avoir un petit creux de vous dire j'ai plus d'amis, je vois plus rien, j'ai plus de loisirs perso. Donc attention à ça, à la limite ça ce sera un conseil de bien-être personnel, essayez de vous préserver, de garder des choses du temps pour vous, parce qu'on n'est pas restaurateur mais il y a une amplitude horaire assez forte et puis une pression du bien faire, de bien recevoir tout le temps. Le droit à l'erreur maintenant dans le commerce il est minime. Donc bon, nous on a de la chance, on reçoit que des gens cool, donc ils sont assez tolérants et il y a toujours moyen de que ça se passe bien et qu'ils sont très tolérants. Mais ménagez-vous quoi, essayez de garder du temps pour vous si c'est possible. Ça ce serait mon conseil principal, puisque je suis sûre que si vous avez envie de faire tout ça, vous savez déjà tout ce qu'il faut faire et bien faire, mais ne vous oubliez pas en chemin.
Super, je partage complètement ton point de vue et j'essaye, je pense, à travers les podcasts ou en tout cas le compte Instagram de le répéter quand même. Malheureusement, c'est un métier qui est pas mal fantasmé. On imagine, mais à cause d'Instagram, à cause des magnifiques magazines de déco, etc. On se dit, waouh, c'est faire des belles tablées et faire une jolie chambre. Oui, oui. Il y a beaucoup d'heures de travail justement pour en arriver à ce résultat. Donc, il ne faut pas choisir cette activité en pensant qu'on aura plus de temps. Ça, c'est, je pense que tu partages mon point de vue.
Exactement. Et en plus, pendant les périodes où vous avez plus de temps, vous ruminez parce que vous ne savez plus ce que c'est que d'avoir
du temps. Oui, on culpabilise.
Du coup, vous culpabilisez de ne rien faire. Vous êtes en train de chercher 1000 idées à la journée pour dire « il faut que je sois efficace parce que là, ça ne va plus. » Parce qu'en fait, quand ça s'arrête, vous vous écroulez limite parce que vous êtes fatigué. Donc, il faut le dire. Mais je ne prends pas l'ambiance tous les jours sur Insta avec ça, évidemment. Mais là, comme je sais qu'on a des auditeurs et des auditrices avertis, je vous dis.
T'as plaisir à gérer ton compte Instagram ?
J'adore.
Ouais.
Franchement, moi, c'est un petit challenge, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de progresser avec le compte, une possibilité de m'épanouir aussi dans les échanges et tout. Et je sais pas, c'est motivant. Je me dis que mon bébé, là, la grange, elle est créée, l'écurie aussi. Je vais pas pouvoir faire sortir 10 maisons supplémentaires. Donc ça, c'est un petit challenge de tous les jours être là, de partager des choses. Et ouais, c'est cool.
Super. Puis on adore regarder les gaufres. Et ta recette qui est vachement partagée, c'est fou, c'est devenu emblématique. La recette des gaufres.
Je suis ravie, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à Magali et Stéphane du compte Les Séquoias et qui ont la maison d'eau de Les Séquoias, parce que c'est Magali, quand ils sont venus, pareil, on échangeait sur tous nos petits tips, c'est elle qui m'a recommandé ce gaufrier magnifique. Donc voilà, elle aussi, elle partage ça, vous pouvez aller voir, hein, elle a des jolies gaufres et tout. Et voilà, donc je la remercie pour ce tip. C'est aujourd'hui, c'est vrai que ben, les gaufres sont devenus incontournables du petit déjeuner.
On en rêve. Et je suis très contente que tu les cites, puisque ce seront les prochains invités. Donc j'ai hâte de les interviewer aussi. Si les auditeurs ont des questions, veulent développer un petit sujet avec toi ou veulent avoir ton avis, etc., comment ils peuvent te contacter ?
Alors, directement, soit par email à lagrangedeleonie@gmail.com ou sur les réseaux, directement sur Insta, je suis toujours ravie d'échanger.
On arrive à la fin de notre échange et tu le sais, j'ai deux questions signatures. La première, dans quel établissement, gîte ou chambre d'hôte, tu aimerais passer le week-end en amoureux avec Christophe ou en famille ? Allez, on emmène les enfants.
Ah mince, ah rigole. Je plaisante. Il y a deux établissements déjà auxquels je pense spontanément. Mm-hmm. Donc, je vais donner les deux. On a très envie donc, de retourner au domaine de l'hostellerie de Lise et Gilles. Voilà, on a passé un super moment. On est allé justement en famille, donc top en famille. Hein. On avait un hébergement pour quatre, ça s'y prête super bien, donc vraiment top. Et puis sinon, on a vraiment envie d'aller au Séquoia, évidemment. Et donc, voir Magali et Stéphane qui sont déjà venus chez nous, et voilà, c'est à notre tour d'y aller, quoi.
Excellent. Et puis oui, faut que tu goûtes ces gaufres à elle.
Exactement, ouais.
Tout à fait. Il faut tester le terrain de pétanque, la nouvelle terrasse là qui est en train de terminer.
Je crois que j'attends la piscine à l'intérieur.
Ah oui, dans la cuve. Ouais. Bon, tu me donnes tes dates et je m'incruste. Hein.
Ok, super. On y va tous ensemble. On privatise, apparemment, c'est possible.
Oui, voilà. Mais écoute, super. Et la toute dernière question, pour finir en musique, quel titre illustre le mieux ton parcours ou l'état d'esprit de la grange de Léonie ?
Alors, c'est Imagine de John Lennon qui me vient en tête. Je ne sais pas si ça illustre mon parcours, mais ça illustre mon envie d'amour et de beau sur la terre. Donc,
wow, voilà. Génial.
C'est peut-être un peu niais, mais non. C'est comme ça.
Non, c'est pas niais du tout et on en a besoin.
Des fleurs dans les cheveux et voilà.
Peace and love.
Exactement.
Et ça fait beaucoup de bien, t'as raison, en cette période. Écoute Mathilde, c'était vraiment un plaisir d'échanger. Merci beaucoup pour ton temps, pour tous tes bons conseils et pour avoir répondu à toutes mes questions en transparence. On va suivre de près les nouveaux projets. Je suis sûre qu'il y en a, mais tu n'as pas voulu trop nous dire, mais je sens, je flaire. Il y a quelque chose. Et dans tous les cas, c'est toujours un plaisir de suivre vos aventures sur Instagram, etc. Donc, on sera au rendez-vous, ça, c'est sûr.
Merci Laura pour l'invitation. Je te remercie surtout pour ta chaleur au téléphone, ton sourire dans la voix. Et puis, moi aussi, j'ai beaucoup de plaisir à te suivre sur Insta. J'aime bien les petits reels. Donc voilà, il faut aussi aller suivre le compte Instagram de Laura.
C'est gentil, merci. À très bientôt Mathilde.
À très bientôt.
Psst, faut pas partir comme ça. Avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'identifier sur Instagram. Promis. Maintenant, j'arrête de parler.